À quelques sources qu'il s'alimente, le dogmatisme apparaît en échec. Ce n'est pas d'une démonstration spéculative que nous devons attendre la vérité de notre religion. Dès les premières pages de l'Apologie de Raymond Sebon, Montaigne met en relief l'importance souveraine du critère moral à la condition seulement qu'il soit entendu comme il convient. C'est-à-dire qu'on se refuse à confondre la morale que prêche le christianisme et la morale que pratique la chrétienté. Ne serait-ce pas pitié qu'une aussi divine et célèbre institution ne marque les chrétiens que par la langue ? Tout d'abord, il est à remarquer que les essais combattent expressément le penchant à l'ascétisme, le goût de la mortification. Ces faiblesses de céder aux mots, mais ces folies de les nourrir, d'anticiper aussi les accidents de fortune, se priver des commodités qui nous sont en main, comme plusieurs ont fait par dévotion et quelques philosophes par discours. Se servir soi-même, coucher sur la dure, se crever les yeux, jeter ses richesses, la rivière, rechercher la douleur, cela pour, par le tourment de cette vie, en acquérir la béatitude d'une autre, ceci pour, s'étant logé en la plus basse marche, se mettre en sûreté de nouvelles chutes. C'est l'action d'une vertu excessive. Montaigne n'éprouve aucun scrupule à reconnaître qu'il se repent rarement, n'ayant fait aucune place dans sa vie au sentiment du péché. Quant à l'idée qu'il y ait au ciel un Dieu pour se réjouir du sacrifice que les hommes s'imposeraient sur terre, il la juge contradictoire d'une relation normale entre le Créateur et les créatures. Selon sa tactique favorite, il recourt à des exemples païens pour dénoncer une justice affamée du sang de l'innocence. Il rappelle le vers célèbre de Lucrèce. Tantum religio potuit suadere malorum, tant la religion a pu inspirer de crimes. Et il poursuit. Les Carthaginois immolaient leurs propres enfants à Saturne, et qui n'en avaient point en acheté, étant cependant le père et la mère tenus d'assister à cet office avec contenance gaie et contente. C'était une étrange fantaisie de vouloir payer la bonté divine de notre affliction, comme les lacédémoniens qui milliardaient leur diane par le bourrellement des jeunes gens qu'ils faisaient fouetter en sa faveur, souvent jusqu'à la mort. C'était une humeur farouche de vouloir gratifier l'architecte de la subversion de son bâtiment et de vouloir garantir la peine due aux coupables par la punition des non-coupables. Et que la pauvre Iphigénie, au port d'Olyde, par sa mort et immolation, déchargeant envers Dieu l'armée des Grecs des offenses qu'ils avaient commises, et ces deux belles et généreuses âmes des deux déçus père et fils, pour propitier la faveur des dieux envers les affaires romaines, s'allasse jeter à corps perdu à travers le plus épais des ennemis. En écartant ainsi tout son système de valeurs qui transcendrait le plan de la moralité commune, Montaigne rend plus pressante la question qui domine l'apologie de Raymond Sebon, plus poignant aussi le sens de la réponse. L'humanité demande au christianisme compte de ce qu'il a fait d'elle et pour elle. Comparez nos mœurs à un mahométan ou à un païen, vous demeurez toujours au-dessous. Là où, en regard de l'avantage de notre religion, nous devrions luire en excellence, d'une extrême et incomparable distance. Et devrait-on dire, sont-ils si justes, si charitables, si bons? Ils sont donc chrétiens. Je vois cela évidemment que nous le prêtons volontiers à la dévotion que les offices qui flattent nos passions. Il n'est point d'hostilité excellente comme la chrétienne. Notre zèle fait merveille quand il va secondant notre pente vers la haine, la cruauté, l'ambition, l'avarice, la détraction, la rébellion. À contrepoil vers la bonté, la bénignité, la tempérance, si, comme par miracle, quelque complexion ne l'y porte, il ne va ni de pied ni d'aile. Notre religion est faite pour extirper les vices, elle les couvre, les nourrit, les incite. Qu'il existe une telle chose que la cruauté, Montaigne est incapable d'en prendre son parti. De moi, je n'ai pas su voir seulement sans déplaisir poursuivre et tuer une bête innocente qui est sans défense et de qui nous ne recevons aucune offense. Cependant, je vis en une saison à laquelle nous foisonnons en exemple incroyable de ce vice par la licence de nos guerres civiles. Et ne voit-on rien aux histoires anciennes de plus extrêmes que ce que nous en essayons tous les jours? Mais cela ne m'y a nullement apprivoisé. À peine me pouvais-je persuader, avant que je l'eusse vu, qu'il se fût trouvé des âmes si monstrueuses qui, pour le seul plaisir du meurtre, le voulussent commettre. Hacher et détrancher les membres d'autrui, aiguiser leur esprit à inventer des tourments inusités et des morts nouvelles, sans inimitié, sans profit, et pour cette seule fin de jouir du plaisant spectacle des gestes et mouvements pitoyables, des gémissements et voix lamentables d'un homme mourant en angoisse. Car voilà l'extrême point où la cruauté puisse atteindre. L'esprit de Montaigne demeure hanté par ses souvenirs. Encore arrive-t-il qu'à l'odieux se joigne le ridicule. De l'Antiquité impériale date ce nouvel exemple de peine qui, depuis, fut continué à Rome, de punir de mort les esprits mêmes et les études. Il n'y avait point assez de moyens et matière de cruauté si nous n'aimions des choses que la nature a exemptées de tout sentiment et de toute souffrance, comme la réputation et les inventions de notre esprit, et si nous n'allions communiquer les mots corporels aux disciplines et monuments des muses. L'année où Montaigne, venu dans sa terre se reposer sur le sein des doctes vierges, a entrepris d'écrire est celle de la Saint-Barthélemy. C'est aux acteurs et aux survivants, c'est aux témoins qu'il s'adresse lorsque, dans un des premiers essais intitulé « De la punition de la couardise », il introduit cette réflexion. Prou, beaucoup, de gens ont pensé qu'on ne se pouvait prendre à nous que ce que nous faisons contre notre conscience. Et sur cette règle est en partie fondée l'opinion de ceux qui condamnent les punitions capitales aux hérétiques et mécréants. Plus tard, il écrira le chapitre de la liberté de conscience, où il ose présenter le panégyrique de l'empereur Julien, surnommé l'apostat. C'était à la vérité un très grand homme et rare, comme celui qui avait son âme vivement teinte des discours de la philosophie, auquel il faisait profession de régler toutes ses actions. Et, de vrai, il n'est aucune sorte de vertu de quoi il n'ait laissé de très notables exemples. Au nombre de ses vertus, il y avait la tolérance. N'est-ce pas Julien qui fit venir en son palais de Constantinople les prélats de l'église chrétienne divisée pour ordonner que chacun, sans empêchement et sans crainte, servît à sa religion? Et Montaigne ajoute en guise de commentaire. Ce qu'il sollicitait avec grand soin pour l'espérance que cette licence augmenterait les parts et les briques de la division et empêcherait le peuple de se réunir et de se fortifier, par conséquent, contre lui, par leur concorde et unanime intelligence, ayant essayé par la cruauté d'aucun chrétien qu'il n'y a point de bête au monde tant à craindre à l'homme que l'homme. Il nous semble difficile de récuser l'accent de ces paroles. Après la ruine du monde antique, le christianisme s'est efforcé d'opérer la relève de la civilisation. La tentative, aux yeux de Montaigne, est restée vaine. Le centre d'intérêt moral et de valeur spirituelle n'est pas du côté de Moïse ou de Jésus, qui à travers les essais ne sortent guère de l'ombre, mais bien plutôt dans les mémorables de Xénophon et dans les dialogues de Platon, dans les lettres de Sénèque et dans les vies de Plutarque. Néanmoins, Montaigne se déclare catholique, pratiquant sinon convaincu. « Je fais conscience de manger de la viande le jour du poisson », écrit-il après avoir toutefois eu la malice de confier à ses lecteurs qu'il est frayeur de poisson et qu'il fait ses jours gras des maigres et ses fêtes des jours de jeûne. Allons-nous donc imaginer que l'homme qui a fait de la franchise absolue la raison d'être de sa vie et de son œuvre, dont l'âme, de sa complexion, refuit la menterie et même le penser, se soit laissé gagner par le courant qui entraîne ses contemporains, car la dissimulation est des plus notables qualités de ce siècle. Les uns font accroire au monde qu'ils croient ce qu'ils ne croient pas, les autres, en plus grand nombre, se le font accroire à eux-mêmes, ne sachant pas pénétrer que c'est que croire. Montaigne, qui n'est assurément pas de ces derniers, ne sera non plus compté parmi les premiers. En fait, lorsque dans les éditions parues de son vivant, Montaigne insère l'affirmation, qui a été retirée du texte de 1595, qu'il se soumet, en tout et partout, à l'ordonnance de la doctrine ecclésiastique, il faut bien entendre son langage et qu'il n'y ait nullement question de religion au sens vraiment religieux du monde. Ce qui se trouve en jeu, c'est autre chose que la société de l'homme à Dieu. C'est la conservation de la société humaine. Or, pour cela, selon les expressions de Montaigne, les pièces principales sont l'humilité, la crainte, l'obéissance, la débonnaireté, lesquelles demandent une âme vide, docile et présumant peu de soi, au besoin même, anéantissant son jugement pour faire plus de place à la foi. Les anciens s'étaient déjà engagés dans cette voie salutaire. Aucune chose ils les ont écrites pour le besoin de la société publique comme leur religion et a été raisonnable. Platon dit « Tout détroussement en sa république que pour le profit des hommes, il est souvent besoin de les piper. » À leur exemple, Montaigne écrira en toute tranquillité d'esprit, en toute sincérité de conscience, « Puisque les hommes, par leur insuffisance, ne se peuvent assez payer d'une bonne monnaie, qu'on y emploie encore la fausse. Ce moyen a été pratiqué par tous les législateurs, et les polices où il n'y ait quelques mélanges ou de vanité cérémonieuse ou d'opinions mensongères qui servent de bride à tenir le peuple en office. » C'est pour cela que la plupart ont leurs origines et commencements fabuleux et enrichis de mystères supernaturels. C'est pour cela également que la majesté divine s'est ainsi pour nous aucunement laissée circonscrire aux limites corporelles. Ses sacrements supernaturels et célestes ont des signes de notre terrestre condition. Son adoration s'exprime par office et paroles sensibles, car c'est l'homme qui croit et qui prie. Je laisse à part les autres arguments qui s'emploient à ce sujet. Mais la peine me ferait-on à croire que la vue de nos crucifix et peintures de ce piteux supplice, que les ornements et mouvements cérémonieux de nos églises, que les voix accommodées à la dévotion de notre pensée, et cette émotion d'essence n'échauffent l'âme des peuples d'une passion religieuse de très utile effet. Jamais plus utile qu'à l'époque de Montaigne. Quasi toutes les opinions que nous avons sont prises par autorité et à crédit, Il n'y a pas de mal, nous ne saurions pire m'en choisir que par nous, en un siècle si faible. Nous sommes de nouveau renvoyés à l'expérience qui fut celle de Montaigne. Il est permis d'imaginer qu'au point de départ, il s'était indigné, tout autant que la Boétie, de l'abaissement auquel la masse du peuple consent, alors qu'il suffit qu'elle adopte une attitude passive, qu'elle refuse de plier les genoux pour que la prétendue souveraineté du monarque s'évanouisse et entraîne au néant tout son cortège d'injustice et de souffrance. Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libre. Mais Montaigne a vécu, il a observé, il a réfléchi. Témoin désolé de ces démembrements de la France et divisions où nous sommes tombés, il s'est rangé au parti d'un conservatisme indivisiblement politique et religieux, parti du moindre mal, qui ne se justifie que trop par le spectacle du monde. Le pire que je trouve en notre état, c'est l'instabilité. Or, tournons les yeux partout. Tout croule autour de nous. En tous les grands états, soit de chrétienté, soit d'ailleurs, que nous connaissons, regardez-y. Vous y trouverez une évidente menace de changement et de ruine. Les astrologues ont beau jeu à nous avertir, comme ils font, de grandes altérations et mutations prochaines. Leurs devinations sont présentes et palpables. Il ne faut pas aller au ciel pour cela. Comment garder encore quelque espérance pour la durée de notre état, sinon en faisant appel à la conformité, qualité ennemie à la dissolution ?